Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » On ne peut être plus clair. Et ce verset a évidemment servi à de très nombreuses polémiques entre les protestants et les catholiques sur la question de la primauté de Pierre. Ce verset a même été écrit en lettres d'or à l'intérieur de la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et c'est au moment de la Réforme qu'effectivement il y a eu là de très grands débats à ce sujet. Je ne voudrais pas reprendre ce type de querelle qui ne m'intéresse pas beaucoup. Simplement, historiquement, comment les protestants ont réussi à se débarrasser de cette espèce de verset qui tendait à prouver que l'évêque de Rome devait être le chef de l'Église. Il y a de très nombreuses manières d'éviter l'obstacle, mais il y a des façons plus intéressantes de le lire. Juste pour citer d'un point de vue historique, tout d'abord, certains ont voulu remettre en cause l'historicité de ce verset. Il est vrai qu'il y a dans le texte beaucoup de variantes. Il se trouve seulement dans Matthieu, alors que l'épisode est relaté dans les trois premiers évangiles. Et donc, certains exégètes disent que cela a évidemment été ajouté tardivement pour justifier quelque chose, mais que donc ces propos ne seraient pas authentiques. Personnellement, je pense que ces propos sont authentiques. L'autre solution qu'ont utilisée les protestants, c'est de dire « Cette primauté concernait peut-être Pierre, mais n'était certainement pas transmissible. Donc ce qui est en question, ce n'est pas la primauté de Pierre, c'est le fait que Pierre puisse transmettre une sorte de succession apostolique. Et donc la primauté de Pierre n'a a priori rien à voir avec la primauté de l'évêque de Rome. » Et puis enfin encore, dernier argument que l'on peut retenir, dirais-je, c'est que historiquement, quand on lit l'histoire de l'Église dans les Actes des Apôtres, on découvre que, de toute manière, Pierre n'a jamais été le chef de l'Église primitive. Dans les Actes des Apôtres, on voit bien que c'est Jacques, dit le frère du Seigneur, qui dirige cette Église, et que Pierre, même s'il a, il est vrai, un vrai tempérament, leader, un vrai charisme que n'avaient peut-être pas les autres, Pierre lui-même doit rendre des comptes à Jacques, et Pierre est soumis à Jacques. Et donc le chef de l'Église primitive n'a jamais été Pierre, mais Jacques, le frère du Seigneur. Il est par ailleurs, Pierre est mis en discussion avec Paul, il se trouve d'égal à égal avec lui. Et cela montre que, historiquement en tout cas, si ce mot a été prononcé par Jésus, il n'a pas été compris par les premiers apôtres comme devant donner à Pierre un rôle particulier dans l'Église. Dans tous les cas, ce que je crois, c'est qu'il faut chercher ailleurs et qu'on n'est pas là dans l'Évangile pour essayer de justifier une position d'organisation d'Église ou une autre, mais que l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. Et le principe de lecture de tout passage biblique, c'est qu'un passage biblique est pour chaque lecteur quelque chose qui lui est adressé. Et donc, nous devons non pas projeter dans le texte ni Pierre d'un point de vue historique, parce que je ne suis pas là pour faire de l'histoire de l'Église, ni projeter là-dessus quelqu'un qui en serait l'éventuel successeur avec toutes les vicissitudes et complications d'une histoire troublée, mais plutôt pour essayer de voir en quoi est-ce que ce texte nous concerne, nous, aujourd'hui, qui que nous soyons. Alors ce que je crois, moi, c'est que il faut voir dans quel contexte cela a été dit. Et que Jésus ne convoque pas Pierre officiellement pour lui dire devant tous les autres « Voilà, c'est toi que je choisis pour être le chef ». Jésus va dire cela à Pierre incidemment dans un contexte très particulier. Et plus particulièrement au moment où Pierre confesse sa foi. C'est-à-dire que Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Différentes réponses possibles et Pierre dit « Cette confession de foi extraordinaire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, voilà, c'est ça. Ça, c'est la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. Et donc, ce que je pense, c'est que le rocher, la pierre angulaire, la base sur laquelle on doit construire l'Église et toute Église, ce n'est pas une personne, mais c'est une confession de foi. C'est-à-dire que c'est Pierre en tant qu'il confesse sa foi. Pierre en tant qu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et j'en ai la preuve. C'est que juste après, mais vraiment trois versets après, Pierre, au lieu de confesser sa foi, dit une grosse bêtise. Jésus annonce qu'il doit aller à Jérusalem pour mourir, pour souffrir et mourir. Et Pierre lui dit « Non, 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 ça ne t'arrivera pas, il ne faut pas, surtout pas ça. » Et à ce moment-là, Jésus dit à Pierre « Arrière de moi, Satan !» Et donc Jésus va à ce moment-là traiter Pierre de Satan. Or, je ne crois pas non plus que cette appellation de Satan soit une sorte d'identification fondamentale, durable et éternelle de Pierre avec le diable. Sinon, une église fondée sur Pierre serait fondamentalement une église satanique. Je crois que Jésus dit à Pierre « Tu es Satan » quand Pierre veut inciter Jésus à échapper à sa mission. Et Jésus dit à Pierre « Tu es la pierre sur laquelle je construirai mon église » quand Pierre confesse sa foi. Autrement dit, dans les deux cas, je dirais, nous avons forcément l'idée que les propos de Jésus ne vise pas à une identification fondamentale et ontologique, dirais-je, entre Pierre en tant que personnage sur le fait qu'il soit lui le fondement de l'Église ou lui qu'il soit l'incarnation de Satan, mais c'est par rapport à une situation particulière. Et en effet, je pense que nous pouvons être, nous aussi, un petit peu les deux. Tout dépend de la situation. Parce que comme Pierre, parfois nous sommes quelqu'un qui confessons notre foi. Et alors nous pouvons devenir une pierre qui construit l'Église, parce que la communauté elle est faite de pierres vivantes et chacun de nous est une pierre sur laquelle se construit la communauté et nous sommes une pierre qui construit la communauté quand nous confessons notre foi, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et inversement, nous-mêmes aussi, nous pouvons devenir des diables, des satans, c'est-à-dire des destructeurs, lorsque, comme Pierre veut pousser Jésus à le faire, nous privilégions notre petit confort, nous privilégions notre convenance personnelle par rapport à notre mission de servir et de donner notre vie pour les autres. Il est d'ailleurs remarquable que, je dirais, ces deux aspects de la chose, tous les deux curieusement cités en latin dans la tradition, « Tu es Petrus » et « Vade retro Satanas », ces deux affirmations concernant Pierre sont ramassées l'une contre l'autre dans le texte de Matthieu et se répondent l'une à l'autre. Le Satan, en plus, c'est celui qui est, mot à mot, le diable, le destructeur, celui qui éparpille, qui envoie aux quatre coins, qui fait éclater toute chose. Et donc le diable, c'est tout le contraire de celui qui construit, c'est-à-dire qui rassemble et qui organise, qui recueille. On a donc l'un et l'autre, et on a aussi d'ailleurs deux propos de Jésus qui se répondent également. Quand Pierre confesse sa foi, Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais Dieu qui est dans le ciel. Et quand Pierre dira une bêtise un peu plus tard, il lui dira « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et donc vous voyez que d'un verset à l'autre, on a exactement le rectus et l'inversus, un sens et l'autre, le positif et le négatif. Cela a fait dire d'ailleurs à certains exégètes que peut-être que le premier aspect des choses, le « tu es Petrus », aurait été rajouté par Matthieu pour justement contrebalancer en quelque sorte cette violence extrême de Jésus qui renvoie Pierre en le traitant de Satan. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire appel à ce genre d'artifice. Je pense au contraire que là, la version de Matthieu est la plus intelligente, la plus complexe et la plus propre justement à faire en sorte qu'elle parle de non seulement de Pierre, mais de nous-mêmes qui sommes tous finalement appelés à être comme les disciples, et comme Pierre et comme les autres. Cette confession de foi de Pierre, elle est effectivement essentielle, fondamentale et merveilleuse. On la retrouve d'ailleurs dans bien d'autres endroits de l'Évangile, quand les chrétiens confessent leur foi dans l'Évangile. Ils ne disent pas, comme l'ont fait ensuite les premiers chrétiens, « Jésus-Christ est le Seigneur », mais ils disent à chaque fois une confession de foi qui est comme ça, « Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce devrait être la confession de foi fondamentale de chaque chrétien, la confession de foi la plus ramassée, la plus synthétique, sur laquelle on doit construire l'Église. L'Église n'est pas construite sur le symbole des apôtres, elle n'est pas construite sur le symbole de Nicée, de Constantinople, elle n'est pas construite non plus sur l'obligation de croire dans un Dieu trinitaire, invention du 4e siècle ou du 3e siècle au plus tôt. L'Église, elle est construite sur une seule profession de foi, qui devrait être la base de toute confession de foi chrétienne, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le fait qu'il soit Christ veut dire qu'il est à la fois roi, prêtre et prophète. Donc Jésus est bien notre roi, celui que nous voulons servir, celui à qui nous voulons obéir, celui qui prend soin de nous. Il est aussi prêtre parce qu'il est celui qui nous met en relation avec Dieu, et il est prophète parce qu'il est celui qui nous donne la parole de Dieu, cette parole qu'il incarne. Et il n'est pas simplement un Christ. Vous savez que Christ veut dire Messie, c'est la même signification en hébreu comme en grec. Il n'est pas un Christ ou un Messie parmi d'autres, il est le Messie. C'est-à-dire celui qui était attendu par la tradition juive, de celui qui accomplit les promesses de Dieu. En Jésus, je crois que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. En lui, nous pouvons avoir la paix, nous pouvons avoir la vie éternelle, le pardon, la liberté, la lumière, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie que nous attendons. Il est ensuite Fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. Ce n'est pas pareil. Mon enfant, ce n'est pas moi. Mais Jésus est Fils de Dieu. Cela veut dire qu'il est celui qui vient en son nom. Il est son serviteur, son représentant, il est celui qui incarne Dieu lui-même et qui incarne tout ce qui est en Dieu. Et ce Dieu est considéré là, est professé comme étant un Dieu vivant, ça aussi c'est important. Cela veut dire que nous croyons que Dieu n'est pas une réalité morte, mais que Dieu est une réalité dynamique, source de créativité nouvelle, dans ce monde et en chacun. Et je crois que cette confession de foi, croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu vivant, eh bien c'est quand on confesse cela, tout change. Et tout, il se passe des choses extraordinaires. La première des choses dites par Jésus, quand Pierre confesse sa foi, il lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Tu es heureux. Tu es heureux, c'est-à-dire que la première promesse, c'est une promesse personnelle qui est faite pour lui. Et je crois qu'effectivement, celui qui sait confesser sa foi de cette manière-là, eh bien, il est heureux. Heureux dans le sens des béatitudes. Heureux dans le sens que le bonheur de la Bible est toujours un bonheur dynamique. Vous le savez, nous l'avons souvent répété, le mot hébreu pour dire « heureux » veut dire aussi être debout et en marche. Et donc, quand on confesse sa foi dans ce Dieu de Jésus-Christ, eh bien, c'est propre à mettre en marche, à mettre en mouvement, à créer une dynamique positive dans l'existence de celui qui le fait, à ouvrir un chemin de bonheur, ouvrir des issues. Et c'est, je crois, un vrai chemin de bonheur que de pouvoir mettre sa confiance dans le Dieu de Jésus-Christ. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que mettre sa confiance en Christ ou en Dieu, c'est déplacer le centre de sa confiance de soi-même sur un autre. Il y a donc là une sorte de décharge extraordinaire, de libération d'un poids qui fait que ma confiance, je ne la mets pas en moi-même, comme si je devais, moi, être parfait, immortel, sans péché, impeccable, sans arrêt, pour pouvoir être heureux, mais mon bonheur, je le confie au plus fiable, au plus éternel, au plus solide des gardiens, qui est Dieu lui-même et qui est le Christ. Par conséquent, je n'ai plus besoin, moi, ni d'être parfait, ni d'être toujours en bonne santé, ni d'être toujours au top, comme on dit, pour avoir le bonheur. Mon bonheur, je m'en décharge et je le confie au Dieu de Jésus-Christ. C'est là, je crois, une très grande liberté qui est donnée aux croyants de sortir justement de cette prétention égocentrique qui est, à mon avis, la cause de toutes nos souffrances. Si moi n'est plus si important que ça, tous les problèmes qui touchent mon moi deviennent des problèmes très secondaires, dirais-je. Et donc je peux me consacrer à quelque chose de plus grand que moi. Et ce que dit Jésus à Pierre, il lui dit « Tu es heureux car » donc on a l'explication là, « ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais notre Père qui est dans les cieux. » Et donc ce bonheur, c'est justement d'aller au-delà du mortel, au-delà de la chair et du sang, au-delà du visible, pour voir sa vie justement autrement que dans sa dimension purement animale et biologique, mais pour voir une dimension de transcendance, pour voir que le but même de notre vie ne réside pas en nous-mêmes, mais ailleurs, et de sortir de la dimension purement biologique, animale, limitée finalement de notre être, pour arriver à projeter notre existence, le centre de notre existence, sur un point qui, lui, n'est pas de l'ordre du conditionné, mais au contraire de l'ordre de l'absolu. Si le centre de ma vie repose sur cette existence biologique qui est la mienne, alors je suis dans le plus grand des dangers. Si je repose ma vie sur un point fixe, un point immortel, absolu, transcendant, alors ma vie elle-même est sauvée parce qu'elle est accrochée à quelque chose que rien ne peut ébranler. Et c'est ça la foi, c'est se sortir de soi-même pour aller vers autre chose, vers l'absolu, vers l'inconditionné, vers le transcendant. C'est ce que les mystiques appelaient autrefois l'extase. L'extase, mot à mot en grec, ça veut dire se sortir de soi-même pour se tenir hors de soi-même. Et c'est la démarche chrétienne, je crois, justement de confesser sa foi. Je crois non pas en moi, mais en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Et puis la deuxième promesse du Christ, c'est de dire « Donc tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Quand il est question d'Église, là, il n'est évidemment pas question d'institution, avec ses pasteurs, avec ses prêtres, avec ses synodes, ni avec ses papes et ses évêques, il ne s'agit pas de cette Église-là. L'Église, dans le Nouveau Testament, la kehila, comme il disait en hébreu à ce moment-là, c'est la communauté, peu importe la manière avec laquelle elle est organisée. C'est la communauté. Et donc là, ce qui apparaît dans la promesse du Christ, c'est la dimension communautaire. C'est là-dessus que je bâtirai une communauté. Et la communauté, c'est de sortir de son égoïsme pour trouver un lien avec d'autres. La communauté est une chose essentielle pour le christianisme. On l'a dit, on le répète, on ne peut pas être chrétien tout seul. Je crois que c'est vrai. C'est vrai que la communauté est une aide, un support, un soutien, La communauté, c'est aussi une façon de vivre avec les autres. La communauté, c'est aussi le lieu privilégié où nous pouvons expérimenter, vivre l'amour fraternel et la solidarité. Mais c'est même plus que ça. La communauté, c'est aussi, comme tout à l'heure d'ailleurs, sortir de son égoïsme pour se comprendre non pas comme étant un individu, mais comme étant en relation avec d'autres. Peut-être que la confession de foi de Pierre, c'est justement ce qui permet de sortir de son égocentrisme. Le centre, vous disais-je, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon plaisir, ce n'est pas ma tranquillité, mais mon centre, c'est le Christ, c'est Dieu, le Dieu de la transcendance. Or, je partage ce centre avec des frères et des sœurs. Par conséquent, je suis réuni avec tous ceux qui mettent leur confiance dans le même Dieu vivant. Et dès que je veux privilégier mon confort, ma convenance personnelle, je fais comme ce que Pierre incitait Jésus à faire un peu plus tard en lui disant « Non, 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 tu n'iras pas à Jérusalem parce que je ne veux pas que tu souffres. » Et Pierre lui dit « Va des rétros, Satanas !» Sortir de soi-même, vous disais-je, pour se considérer comme une partie de quelque chose qui nous dépasse. Et il y a là une idée, dans l'idée de la communauté, qui a été poussée très loin, en particulier dans les pensées de l'Inde, du bouddhisme et de l'hindouisme, qui vont jusqu'au bout de cette logique, en disant « Le seul but de l'existence, c'est d'arriver à comprendre que vous n'êtes pas des individus, mais que chacun n'est qu'une partie d'un grand tout. » Et les penseurs de l'Inde utilisent pour ça cette image. Ils disent « Nous sommes, nous, comme une bouteille. » Vous prenez une bouteille que vous immergez au fond de la mer et vous mettez un bouchon. Il y a de l'eau de mer dedans et de l'eau de mer dehors. Il y a un dedans et un dehors. Eh bien, disent-ils, la démarche mystique consiste à être capable de retirer le bouchon de la bouteille. Ce qui fait qu'il y a bien une bouteille, mais le dedans et le dehors communiquent en quelque sorte. Et si bien qu'on ne peut plus dire ce qui est dehors, ce qui est dedans et ce qui est dehors. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Et ça, c'est le but ultime de l'hindouisme, montrant que l'on doit arriver à comprendre que je ne suis moi-même rien que une partie des autres et que finalement nous sommes tous en communication les uns avec les autres et que nous formons un seul grand organisme et donc je ne peux pas prétendre me penser moi seul indépendamment des autres. Il y a en physique d'ailleurs un objet passionnant qui s'appelle le vase de Klein et le vase de Klein est quelque chose de passionnant parce que c'est un vase qui n'a ni intérieur ni extérieur. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dedans, on se retrouve à l'extérieur et on ne peut plus arriver à définir ce qui est le dedans et le dehors. Ça, c'est le but ultime, dirais-je, de la démarche mystique de l'Inde, d'arriver justement à sortir de l'égoïsme fondamental pour comprendre que je ne suis moi, que je n'ai de sens, ma vie n'a de sens qu'en communauté. Je crois que c'est exagéré par rapport à la pensée chrétienne, qui a toujours défendu l'idée d'individu. Mais néanmoins, l'individu que nous formons, je crois, doit être compris comme membre et comme membre d'une communauté et comme étant en communion avec une communauté et avec les autres. Ça, c'est l'amour. Le Christ dit ensuite « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ça. » C'est la promesse de la vie éternelle. Et je pense qu'effectivement, ce que je viens de dire est ce qui permet de dépasser la mort. L'éternité, pour obtenir l'éternité, il faut sortir de soi et savoir que l'essentiel ne réside pas dans notre petite vie biologique. Trouver la vie éternelle, c'est renoncer même à son existence personnelle pour vivre avec les autres. Et j'ai une preuve de ça. Les philosophes qui s'intéressent à l'âme humaine, ont depuis longtemps montré que le désir d'enfant qui anime l'être humain et qui est aujourd'hui encore une chose tout à fait à l'ordre du jour, n'est-ce pas ? Le désir d'enfant est lié avec le désir d'immortalité. de l'être humain. Chaque être humain voudrait dépasser la finitude et la limite dramatique de sa propre mort. Et le désir d'enfance est une façon de dire « il y a quelque chose de moi qui survit après ma mort ». Je pense que beaucoup de parents vivent finalement par leurs enfants et pensent que eux survivront et par là même leur donneront une forme d'éternité. Ce qui fait d'ailleurs que les parents sont prêts à mourir pour leurs propres enfants. C'est intéressant. Et donc les enfants sont ce qui permet de dépasser la crainte et même la limite fondamentale de notre propre mort. L'Église romaine a eu, comme d'habitude d'ailleurs, une intuition extraordinaire en disant « Les prêtres n'ont pas le droit d'avoir d'enfants dans la chair, parce que, disent-ils, chaque fidèle est en fait un des enfants du prêtre. » Je pense qu'il en est de même, en fait, pour tout chrétien, idéalement. D'arriver à ce que le chrétien s'investisse tellement dans ses frères que chaque frère soit comme celui dans lequel je me vide pour mettre ma confiance dans un autre, c'est-à-dire que chaque frère soit mon enfant. En effet, pourquoi privilégier ses propres enfants dans la chair ? Chaque chrétien devrait, comme le Christ, être prêt à mourir pour chacun de ses frères, parce que ma vie moi-même n'est plus aussi importante que finalement par rapport à ce qui est vécu au niveau de la communauté et des autres. Alors je pense qu'effectivement, c'est indépendant du fait d'avoir des enfants ou non dans la chair, et que ce n'est pas réservé aux prêtres ou aux pasteurs, chaque fidèle, dans la mesure du sacerdoce universel, est invité ainsi à considérer chaque autre chrétien comme son enfant, comme celui pour lequel je suis prêt à mourir, parce qu'en lui, il y a quelque chose de moi qui survit. Parce que alors, je sors tellement de mon égoïsme, j'entre dans une autre dimension qui est celle de la vie éternelle. Et c'est ce qu'a fait le Christ en mourant pour chaque homme. Et puis enfin, la dernière promesse que donne Jésus, c'est « ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel ». Ça n'a rien à voir avec la question du pardon des péchés, probablement. Ce n'est ensuite d'ailleurs pas réservé ni à Pierre ni à qui que ce soit, puisque un peu plus loin, au chapitre 18, Jésus dira exactement la même formule pour tous les disciples, pour chacun, donc pas seulement pour Pierre. Mais la terre, c'est le matériel, le ciel, c'est le spirituel, la terre, c'est le passager, le ciel, c'est l'éternel. Et cela nous apprend que si l'on n'agit pas pour soi, mais que l'on agit pour Dieu, si on agit non pas par rapport à son propre intérêt ou sa propre convenance, mais si on agit pour une communauté, alors tout acte matériel peut devenir un acte spirituel. Alors tout acte quotidien peut devenir un acte religieux. Alors la moindre chose de ma vie, faite pour le Seigneur, faite en confessant ma foi, faite pour Dieu, pour mes frères et pour mes sœurs, me sort de moi-même et peut devenir un acte éternel et d'un poids essentiel. Alors chaque acte peut prendre une valeur d'éternité et ne plus être simplement une action pour ce monde, mais quelque chose qui a une valeur essentielle et fondamentale. C'est l'exemple que l'on donne souvent, bien sûr, de la femme de ménage qui fait le ménage non pas simplement pour son patron ou sa patronne, mais comme pour Dieu. Et qui dit « ça change tout, parce qu'avant je faisais le minimum pour que ma patronne ne voit pas que j'ai mal fait le boulot, maintenant je le fais pour le Seigneur, je le fais pour Dieu. » Et qu'est-ce que ça change ? Eh bien tout, parce que si je n'agis que matériellement, alors tout acte matériel est désespérant. Et celle qui lave les vitres, l'après-midi où on a lavé les vitres, en général il pleut. Il faut recommencer. Et tout ce que l'on fait matériellement est à refaire. On fait des enfants, on se donne du mal et ils meurent. Alors à quoi bon ? Et à un moment donné, tout ce que l'on fait, le monde le défait. Et finalement, tout ce que l'on fait matériellement devient désespérant parce que cela n'aboutit à rien. Tout ce que l'on construit aujourd'hui sera un jour détruit. Le seul moyen, c'est effectivement de sortir de là. Sortir c'est la confession de foi en Dieu, en Jésus-Christ, dans l'éternel, dans le transcendant, dans l'absolu et dans la communauté qui nous sauve de la finitude et de l'absurde de toute vie qui doit finir, de toute action qui ne serait sinon qu'une agitation vaine dans un monde où rien ne dure. Je crois que c'est cette confession de foi fondamentale de Pierre qui, justement, nous permet de nous sauver hors de la finitude et hors du temps. Et c'est bien cette confession de foi, donc, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette confession de foi que nous pouvons fonder notre vie, et nous sommes invités à en faire la pierre angulaire de la construction de toute notre existence, et à dire c'est là-dessus que je construis ma vie. Ça, c'est la pierre sur laquelle je construirai ma vie, mon existence. Et c'est la pierre sur laquelle je construirai une communauté, une église. Et c'est cette pierre qui me permettra de dépasser les limites et les frontières de la mort. Et c'est en confessant cette foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, que j'accéderai à l'immortalité, à l'éternité, et cela pour notre plus grand bonheur. Et c'est ça aussi qui nous donne la possibilité de sortir de ce moi satanique, en quelque sorte, et qui nous ouvre à la communauté, aux autres, à l'autre, à la vie et à l'éternité. Amen.